Solidarité avec les sans-papiers.
J'entends moi.
Ils ont mis des papas
oui.
Ou des mamans en prison.
Solidarité avec les sans-papiers.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests, osseux, sont d'un autre âge. Ils te disent merde, mon cartilage. Les tests,
osseux,
sont d'un
autre âge.
Ils te disent merde, mon cartilage.
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF sur fréquence Paris Pluriel 106.3 en FM ou http://www.rfpp.net pour nous suivre en streaming. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h30 et très bientôt téléchargeable sur le site resf.info à la rubrique radio. Et pour y aller, c'est très simple, soit vous faites http://resf.info/radio, soit vous vous arrêtez à resf.info, vous en profitez pour vous balader sur le site, prendre toutes les informations que vous pouvez prendre, passer par la rubrique pétition et les signer toutes. Puis vous trouverez la rubrique radio un peu plus bas dans la colonne de gauche. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire parce qu'on aime bien recevoir du courrier et nous écrire pour nous donner votre avis sur l'émission, nous communiquer vos infos, nous demander des compléments d'information ou nous en apporter, nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émission, enfin, vous dire ce que vous voulez, mais on aime bien recevoir du courrier. Et pour nous écrire, donc, vous pouvez le faire soit par mail à resf.fpp@gmail.com, hein, je répète, resf.fpp@gmail.com, soit par la poste, en adressant votre courrier à émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Hein, je répète, émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Et puis, comme on ne fait pas de publicité et qu'on n'en fera jamais, on n'a pas besoin de nos aides, on n'a pas besoin d'annonceurs, hein, ça ne nous sert à rien. Par contre, pour vivre, on a besoin de nos auditeurs. Alors, vous pouvez glisser dans l'enveloppe un petit ou un gros chèque, comme vous voulez et comme vous pouvez, libellé à Association Paris, Paris pour Programme Associatif d'Intérêt Social. Donc, vous faites votre chèque libellé à l'association PARIS, ou vous pouvez aussi cliquer sur le bouton faire un don en page d'accueil du site de la radio, hein, http://www.rfpp.net. Et puis encore une émission un peu particulière, et c'est parti pour une série, hein. Du fait du confinement, les studios sont fermés mais l'antenne reste ouverte, donc on est obligé de faire nos émissions à la maison avec les moyens du bord, et c'est parfois un petit peu compliqué. Nos invités ne peuvent s'exprimer que par téléphone et pas moyen d'aller faire des reportages, et surtout une émission à la maison demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps de préparation. Et celle-ci, comme la précédente et sans doute la suivante, a été enregistrée mardi pour aujourd'hui, et certaines des infos peuvent être périmées sans qu'on puisse les modifier. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Et puis un grand merci à Lucien qui est là pour assurer le suivi d'antenne. On ne va pas répéter nos conseils et infos de la semaine dernière. Toutes les permanences associatives sont fermées et pour les urgences, téléphonez. Alors pour les permanences RESF, vous trouverez les coordonnées en page d'accueil du site en descendant sur la colonne de gauche. Vous verrez alors toutes les permanences locales classées par département. Et quand vous avez trouvé votre département, vous cliquez sur @contact. Et pour les autres associations et collectifs, rendez-vous plutôt sur leur site. L'accueil en préfecture reste fermé, les titres de séjour, cartes de séjour, récépissés, etc., valables jusqu'au 16 mars, sont prolongés. Et si vous avez des doutes, prenez contact avec vos permanences, plutôt par SMS de préférence ou par téléphone. Pour les distributions alimentaires, ce qui pose un gros problème, il semble y avoir pas mal de lieux de distribution alimentaire annoncés. Vous trouvez une liste des différents lieux de distribution sur le site de Solinum, donc c'est http://www.solinumpar.org. Et sinon, vous pouvez aussi, pour avoir les différentes adresses, envoyer un mail à resf.fpp@gmail.com et on vous l'enverra. Aujourd'hui, on va encore parler de la réalité du confinement pour les jeunes isolés étrangers, et pas que les jeunes isolés d'ailleurs, pour les étrangers en particulier, mais ça va au-delà. Donc mercredi dernier à Albi, ce sont 4 jeunes qui, après avoir été déclarés majeurs, sont mis à la rue par la DDAEOMI 81. La DDAEOMI 81, c'est le dispositif chargé par le service du Conseil départemental du Tarn d'évaluer la minorité des jeunes étrangers qui demandent une protection. Alors, ils ont été mis à la rue, puisqu'ils ont été déclarés majeurs, munis d'une attestation de déplacement qui indiquait qu'ils étaient dehors pour une activité physique individuelle. Bérangère Basset, du RESF Tarn, jointe par téléphone vendredi dernier, nous en parle. Puis, on écoutera Daniel Guérissi, de l'ADJI, enregistré mardi matin, nous parler des suites de la galère des jeunes isolés étrangers, malgré les annonces du gouvernement et de la ville de Paris. Et puis, dans les lieux d'enfermement, ça ne se passe pas bien du tout. Alors, on parlera des CRA, Centre de Rétention Administrative, avec David Rohi, responsable rétention à la CIMAD. Et on parlera également avec Laure Palin, qui est coordinatrice de l'ANAFE, donc on parlera des zones d'attente. Et tout de suite, Bérangère Basset, contactée par téléphone vendredi dernier depuis Albi. Bonjour Bérangère Basset, tu nous appelles depuis Albi, donc tu es du RESF Albi, et tu vas nous parler de la façon dont on conçoit le confinement à Albi.
Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Bonjour Yves. Merci en effet de vous intéresser à la situation dans le Tarn, puisqu'on a vécu mercredi dernier, le 18 mars, une situation assez hallucinante où en pleine crise sanitaire, en pleine période où on nous demande de nous confiner, 4 jeunes, des mineurs isolés étrangers, se sont retrouvés mis à la rue.
Ouais. Et donc tu peux nous expliquer comment ça se fait, parce qu'en plus, non seulement ils se sont trouvés mis à la rue, mais dans d'autres circonstances, la façon dont ça s'est passé aurait pu être comique. Mais là, c'est pas drôle du tout.
Oui, on a cru à un gag. Enfin, on aurait pu croire à un gag s'il n'y avait pas des vies humaines qui étaient en jeu. Alors, des jeunes à la rue, c'est fréquent, dans le Tarn comme ailleurs. Ce sont des jeunes qui se présentent comme mineurs et qui viennent demander une protection à l'aide sociale à l'enfance. Et voilà, comme dans tous les départements, ils subissent une évaluation qui est assurée dans le Tarn par un dispositif qui s'appelle le DAOMI, dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés. C'est une structure qui a fait beaucoup de dégâts à Toulouse depuis qu'elle est en place en 2015 et qui fait énormément de dégâts dans le Tarn depuis qu'elle y est arrivée en 2018. Donc des jeunes à la rue, ça, on a l'habitude de gérer la situation. Des jeunes à la rue dans des conditions inhumaines, ça, on savait que ça se pratiquait, mais on ne pensait pas le DAOMI capable d'une telle irresponsabilité. On ne pensait pas qu'en période de crise sanitaire, ils allaient avoir le culot de faire une chose pareille. Et moi, quand ces jeunes m'ont appelé mercredi matin, j'ai dû leur faire répéter 2 ou 3 fois pour bien m'assurer qu'effectivement ils avaient été mis à la rue, parce que ça me paraissait complètement impensable. Donc on a été 2 bénévoles à les rejoindre pour voir ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait les aider. On a bien sûr appelé le 115 qui, comme de bien entendu, n'avait pas de place. Et on a alerté préfecture, conseil départemental, tout le monde se renvoyant la balle et jugeant que c'était de la responsabilité de l'autre que de prendre en charge ces jeunes. Alors c'était même pas la question, ces jeunes n'auraient jamais dû être mis dehors. Toute procédure normalement aurait dû être neutralisée en période de crise sanitaire. Il fallait bien évidemment que ces jeunes restent au Dahomey, continuent à y être hébergés. Et la chose hallucinante à laquelle on avait peine à croire, c'est que on leur avait remis une attestation de déplacement, puisque nous sommes tenus d'avoir cette attestation de déplacement sous peine d'amende, en indiquant qu'ils étaient dehors pour faire une activité physique individuelle. Donc c'est à croire que le Dahomey prend avec autant de légèreté la situation de ces jeunes que les consignes de sécurité qui nous sont données pour essayer d'endiguer la propagation du virus. Et autant vous dire qu'avec de telles pratiques dans le Tarn, on n'est pas prêt d'enrayer la propagation du virus. Alors fort heureusement, la solidarité s'est mise en place comme elle a coutume de le faire. Et c'est la chose rassurante dans cette histoire, c'est que voilà, il y a une vraie mobilisation militante qui se déploie dans ces cas-là. Et il y a une association qui est située à Gaillac, une ville qui est à quelques kilomètres d'Albi, une association qui s'appelle l'Entre-deux et qui est assez récente et qui fait de l'accueil pour les mineurs isolés qui, de cette manière-là, sont mis à la rue et qu'on doit aider à faire des procédures auprès de la juge des enfants pour faire reconnaître leur minorité, et ben cette association, elle s'est à nouveau mobilisée, elle a su faire preuve de la générosité qui la caractérise et elle a pris en charge ces jeunes. Alors, peu de temps après, la préfecture nous a signifié que les chambres d'hôtel étaient mises à disposition de ces jeunes, mais on n'avait aucune garantie sur la durée de cet hébergement à l'hôtel. Et puis on sait très bien que l'hôtel pour des jeunes gens, c'est absolument pas la solution. Ce serait poser les questions de des repas à prendre et de tout un tas de choses. Donc on est de toute façon plus rassurés de les savoir mis à l'abri dans cet hébergement militant.
Eh bien, merci beaucoup Bérangère. Peut-être tu as des choses à ajouter ?
Non, voilà. Enfin, sinon qu'on a fait une saisine du défenseur des droits pour dénoncer cette situation et qu'on envisage de faire des démarches en justice pour dénoncer les pratiques et de la préfecture et du conseil départemental du Tarn qui, une fois de plus, a montré le peu de cas qu'il faisait des mineurs isolés. Et on a vraiment le sentiment que dans la gestion de cette crise sanitaire, il y a des mesures qui sont très inégalitaires. Voilà, on voit très bien qu'il y a des oubliés de la crise sanitaire et on sait très bien qui sont les oubliés.
Ah ben merci beaucoup et puis donc tu nous tiens au courant.
Oui, on tiendra au courant effectivement le réseau Éducation sans frontières. Merci, merci beaucoup.
Au revoir Bérangère.
Au revoir.
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Donc on vient d'écouter Bérangère Basset hein, du RESF Albi, contacté par téléphone vendredi dernier et on va tout de suite retrouver Daniel Guérissi de l'ADJI, Aide et Défense Juridique des Jeunes Isolés Étrangers, qui nous parlera de la situation donc des jeunes à Paris, des galères, des problèmes d'hébergement et d'une certaine conception du confinement. Donc tout de suite, Daniel Guérissi, enregistré mardi matin. Bonjour Daniel Guérissi de l'ADJI, Association pour la Défense des Jeunes Isolés Étrangers. Et tu vas nous parler un petit peu de comment ça se passe pour certains jeunes mineurs, ou majeurs d'ailleurs, hein, de jeunes isolés.
Bonjour. Alors, la situation évolue très très lentement. On va dire que pour l'essentiel, on n'a pas d'informations précises. Sur où envoyer des jeunes dont on sait qu'ils sont à la rue. On n'a pas d'informations précises pour tous ces jeunes. Donc, soit un mineur ou qui se déclare mineur qui arrive sur Paris, ou soit déclaré non mineur au vu de l'évaluation, ouais, mais dont un dossier est en cours auprès du tribunal, soit de Paris, soit de la région Île-de-France. Donc là, on n'a aucune information pour ces jeunes-là. Nous, on a des appels de jeunes qui nous disent « on est dehors, je suis dehors ». Là, ce matin, encore un jeune qui me disait très, très fatigué. Il dort à Stalingrad, voilà. Et ben, je ne sais pas, je n'ai rien à lui proposer, en fait. Voilà, donc ouais, c'est quand même très inquiétant, parce qu'on est à une semaine de cette situation sanitaire grave et on n'a toujours rien de la part des pouvoirs publics, que ce soit du conseil départemental ou que ce soit de l'État, on n'a toujours rien de particulier. Alors, il y a effectivement monsieur Adrien Taquet qui, dans une lettre datée du 21 mars, dit que, en ce qui concerne la prise en charge des mineurs non accompagnés, priorité doit être donnée à leur mise à l'abri, quand bien même les conditions de l'évaluation de la minorité sont perturbées.
Ouais.
Bon, ça, c'est une avancée. Mais voilà, où les envoie-t-on, comment fait-on? Là, par contre, on n'a pas de précision. Voilà, nous, on est vraiment en lien avec ces gamins et il nous faut vraiment des choses concrètes, à savoir où peut-on les envoyer, par qui seront-ils reçus et de quoi s'agit-il, quoi. Voilà, tout simplement. Or là, rien n'est concret là-dessus. Il a été dit aussi que jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura aucun transfert de mineurs d'un département à l'autre.
Ouais.
Là, c'est dans le cadre de la répartition des mineurs. Ça, c'est toujours dans la lettre de monsieur Adrien Taquet, qui est donc le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Voilà. Mmh. Bah, à part ça, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les mises à l'abri qui sont urgentes pour tous ces jeunes, qu'ils soient mineurs ou qu'ils se déclarent mineurs ou juste majeurs. Mais c'est absolument une mesure absolument urgente, humaine, et puis bah, pour éviter que eux-mêmes soient contaminés et qu'ils contaminent d'autres personnes. Voilà. Et une semaine après, on est toujours dans cet état-là. Voilà.
Malgré les grandes annonces qui ont été faites, que les hôtels étaient réquisitionnés.
Bah,
que...
Comme d'habitude, ça reste des annonces, mais concrètement, on n'a rien. Et pourtant, on est en lien avec des jeunes. Nous, on peut se mettre tout à fait en lien avec des jeunes à qui on pourrait dire, voilà, tu vas à tel endroit, on peut même éventuellement les accompagner. Bref, avec les mesures sanitaires qu'il convient, à savoir les mesures d'urgence, mais on est tout à fait disposé à aider dans ce pour être le lien avec toutes ces mesures qui pourraient être prises. Mais pour l'instant, il n'y a toujours rien de concret. Voilà.
Et sinon, donc, c'est toujours aussi une grosse galère pour les gamins qui sont hébergés, qui sont en hôtel, je crois, pour pouvoir manger, avoir accès à l'alimentation.
Oui, alors c'est là, par contre, on a eu des adresses. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, ces adresses qu'on nous a communiquées, où là, on peut effectivement adresser les gamins pour avoir des repas. Soit des repas servis, alors qui sont enveloppés, hein, enfin, voilà, distribués. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, ça a évolué quand même. Hein. C'est-à-dire que pour la nourriture, on a la possibilité, effectivement, de donner des adresses aux gamins, quel que soit le lieu où ils sont. Hein, s'ils sont à Paris dans le 19e, on trouvera des lieux de distribution dans le 19e et on peut leur donner ces informations-là. Donc là, ça a évolué à ce niveau-là. Hein. On a quand même des adresses là-dessus. Mais par contre, pour ce qui concerne l'hébergement, ça, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Ces jeunes-là sont vraiment dans un état très vraiment en mauvais état. Ouais. D'habitude, en fait, nous, à l'ADJ, lorsque des jeunes sont en mauvais état de santé, on les envoie à l'hôpital, aux urgences, en leur disant là, parfois les urgences, voilà, sont assez ouvertes et leur permettent de passer au moins une nuit. Mais là, ça n'est plus possible, forcément, compte tenu de la situation sanitaire. Et lors de question d'envoyer ces jeunes à l'hôpital, bien évidemment, qu'ils ne seraient pas accueillis, et c'est tout à fait logique. Voilà. Donc là, on n'a même plus de mesures de secours pour eux. Voilà. Ce qu'on avait avant la situation épidémique, là, on n'a même plus cette situation de secours.
La situation est apparemment de plus en plus dramatique, sauf peut-être sur des possibles distributions de repas, mais on n'a pas encore de retour des gens qui ont été mangés.
Non, moi, là, on n'en a pas en particulier. Bon, peut-être que certaines associations en ont, mais. Enfin, nous, en tous les cas, moi personnellement, je n'ai pas de retour par rapport à ça. Sauf les quelques jeunes que je suis, effectivement, eux ont pu se nourrir depuis. Hein. Bon, les premiers jours ont été dramatiques pour eux parce qu'ils ne pouvaient plus du tout se nourrir.
Mmh.
Bon, là, aujourd'hui, ils arrivent à se nourrir, même en faisant la manche. Hein,
chose.
Mais bon, c'est un peu plus difficile parce qu'on s'y trouve beaucoup moins de monde dans les rues.
Mmh.
Mais le problème majeur, c'est l'hébergement. Il n'y a rien au niveau ni de la mairie de Paris, ni du conseil départemental, et ni de l'État. Voilà les seules infos que, dont je dispose aujourd'hui. Mais c'est vrai que la situation là, n'évolue pas sur les hébergements à une semaine. C'est dramatique, quoi. Franchement, c'est dramatique et je ne comprends même pas qu'on en soit encore à se dire... on ouvre des gymnases, les gymnases sont ouverts, mais les gymnases, encore une fois, ça n'a pas l'air du tout d'être la solution, puisque si on met toutes les autres toutes les personnes ensemble, alors qu'elles n'ont pas été testées, là, on va forcément permettre la propagation du virus. Donc, c'est vraiment pas... Alors, on entend encore la même chose. Ça fait une semaine qu'on entend dire que les hôtels vont être réquisitionnés, mais on en est toujours au stade des annonces et toujours rien de concret. À une semaine, on n'en est toujours rien de concret à ce jour. Et c'est franchement, je trouve ça irresponsable, très, très concrètement. Ouais. Compte tenu de la situation sanitaire, c'est irresponsable de la part de tous les pouvoirs publics, que ce soit conseil départemental ou l'État, c'est irresponsable.
Ouais, donc les annonces aussi qu'on a vues sur des ouvertures de gymnase, ça reste surtout des annonces.
Oui, ça reste des annonces. Ça reste des annonces. Nous, très concrètement, on attend d'avoir des adresses à communiquer aux gamins. Et dans quelles conditions ils seraient hébergés, est-ce qu'ils sont testés au départ, est-ce que, toutes ces questions auxquelles il faut qu'on puisse. On n'a aucune réponse par rapport à ça. Aucune avancée là-dessus, aucune.
Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Peut-être tu as des choses à ajouter.
Non, en dehors de c'est un appel à l'urgence, quoi. À l'urgence. Ouais. À l'urgence sanitaire et à l'urgence humanitaire, quoi. Que les plus démunis puissent être mis à l'abri, c'est un minimum que notre pays doit faire. Voilà. Et aujourd'hui, le 24 mars, à 15h25, eh bien, on en est au stade des annonces, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est appel à tous, quoi. À tous les pouvoirs publics pour. Mettre en place ces dispositifs avec tous les moyens qu'on peut avoir et voilà. Alors, le personnel aussi, mais il faut que le personnel soit aussi protégé, hein, bien évidemment, hein, aller accueillir du monde sans que véritablement on n'ait pas les masques, on n'ait pas ce qu'il faut, c'est hallucinant, quoi, voilà. Donc on attend que les pouvoirs publics fassent leur boulot et voilà, enfin, que l'État délivre tout ce qu'il faut pour que les personnes les plus précaires parmi les jeunes et les moins jeunes, que tous soient à l'abri de cette épidémie et qu'ils puissent effectivement être à l'abri pour eux et pour les autres. Et
est-ce que tu as eu connaissance de gamins qui auraient pris, de gamins ou pas de gamins d'ailleurs, de jeunes ou de gens à la rue, qui auraient pris des amendes justement pour ne pas rester confinés?
Ah oui, non, ils ont, il y en a un, oui, qui est venu, alors je ne sais pas s'il a pris une amende. Il a été, parce que bon, on essaye effectivement, on envoie un SMS, hein, lorsqu'on veut donner une convocation à un gamin pour le juge des enfants, ce genre de choses qui sont quand même urgentes, hein, parce que il y a quand même malgré tout des convocations à audience. On ne sait pas si les audiences vont se tenir, mais en tous les cas, il y a des convocations à audience,
ouais,
pour voir le juge des enfants. Donc là, c'est quand même urgent.
Ouais.
Et effectivement, on envoie un SMS au gamin pour dire, présente ce SMS en cas de contrôle.
Ouais.
Et c'est arrivé qu'effectivement, il y a eu des contrôles pour des jeunes. Et bon, avec ce SMS, finalement, bon, l'officier de police avait laissé tomber. Mais c'est vrai que il y a quand même des contrôles assez fréquents sur Paris ou la région parisienne, hein, notamment en Seine-Saint-Denis, où des jeunes sont contrôlés pour vérifier s'ils ont l'autorisation pour pouvoir se déplacer. Avec le SMS jusqu'à présent, ou l'autorisation lorsqu'on peut l'envoyer par mail,
ouais,
hein, il faut savoir que ces jeunes qui sont dehors, ils n'ont pas ni mail, ni... ils n'ont pas du tout équipé pour
recevoir... Ni imprimante, puisque ça ne fonctionne que si l'autorisation de sortie est imprimée.
Oui, c'est ça. Mais avec avec ce SMS, en fait, jusqu'à présent, les quelques cas que moi j'ai eus, j'ai envoyé un SMS pour dire qu'il y avait une urgence à récupérer une convocation à tel endroit,
ouais,
ça, en l'occurrence devant la GIE. Et là, jusqu'à présent, ça... Le contrôle qui avait eu lieu, là, ça s'est bien passé. Les officiers de police n'ont pas été plus loin, on va dire, avec ce SMS.
Voilà, bien, merci beaucoup Daniel. Et je rappelle, Daniel Delagy, aide et défense juridique des isolés étrangers. Et puis, bah, peut-être à la semaine prochaine, toujours par téléphone.
Eh bien, oui. Et puis, on espère de nouvelles mesures, voilà, de choses qui pourront mettre tout le monde à l'abri, en tous les cas. Merci, et puis voilà. Bon courage à tous.
C'est moi qui te remercie, bon courage. Et puis, tu peux rester à l'écoute de FPP 106.3.
Oui, exactement.
Au revoir.
Merci, à bientôt, au revoir.
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net, partout dans le monde. On vient d'écouter Daniel Guérissi de l'ADJI, Aide et Défense Juridique des Zones Étrangers, et non pas association, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un lapsus en début d'entretien, entretien réalisé mardi matin. Et avant de trouver David Roy, responsable rétention à la CIMAD, qui va nous parler en particulier de cette application pour le moins singulière du confinement dans les CRA, donc Centre de Rétention Administrative, je propose qu'on fasse une petite pause avec « On m'a vendu du rêve », l'album réalisé par les jeunes de la SMI, en écoutant le titre « Je me souviens ».
Je suis souvent seul et bien triste. Je me sens comme abandonné.
Abandonné.
Surtout quand je pense à ma mère et puis à toi. Oh mon Afrique.
Oh mon Afrique.
Que j'ai quitté le cœur serré. Je me souviens des mangues volées dans le champ par nous écoliers. Quand on allait sur tes chemins, ensemble avec tous les copains, le monsieur avait la machette. On courait en paix de la tête.
On avait peur, mais c'était bon.
On était pièces et du tonneau. Souvent, je suis mélancolique. Surtout quand je pense à ma mère. Et puis à toi.
Oh, mon Afrique.
Que j'ai quitté.
Oh, toi, ma terre.
D'autres peurs me hantent aujourd'hui. Le bateau a coulé sur l'eau. Nous étions 12 en sortie. 12 personnes avec rien sur le dos. Et je me dois de résister. Pour espérer au final quelques bouts de papier qui me permettront d'exister.
D'exister.
Je n'ai que 14 ou 15 ans quand vous me traitez de menteur.
Menteur.
J'ai mal au cœur en vous voyant me haïr et me faire tellement peur. Je me souviens des jours de pluie quand on glissait sur le ciment. On se mettait tous sur le ventre, on organisait des concours. On rigolait, il faisait lourd.
Il faisait lourd.
Avant l'orage, on s'est déshabillé pour entendre la pluie en riant. Depuis mon arrivée, je ne peux plus dormir.
Plus dormir.
Je broie souvent du noir, mais j'essaye de sourire.
J'essaye de sourire.
Je me dis Inch'Allah,
Inch'Allah.
Les choses vont s'arranger,
Inch'Allah.
Et peut-être que bientôt,
Inch'Allah.
J'aurai même un métier,
Inch'Allah.
Et si ça n'arrive pas, j'aurais fait mon possible.
Mon possible.
Mais ne jamais savoir devient vraiment pénible.
Vraiment pénible.
J'en ai mal au ventre et ma tête est trop pleine.
Trop pleine.
Combien de temps passé à errer dans le noir?
Dans le noir.
Je me souviens de la moto, des champs cultivés, du magasin et de l'école où j'aimais tant aller. Du foot avec les copains, de l'odeur de ma mère. De ses douces mains.
De ses douces mains.
La chaleur de nos rires. La tête de mes voisins.
La tête de mes voisins.
Je voudrais apprendre un métier. Gagner ma vie, c'est important. Et puis pouvoir me retourner vers toi. Au moins de temps en temps. Je me souviens de tes saveurs. De l'odeur du riz. De tes chants. Je me souviens de ta grandeur. Oh mon Afrique.
Oh mon Afrique.
Oh mes parents.
Oh mes parents.
Je me souviens, c'était hier. Pourtant, j'ai
pas veillé dedans.
Depuis que j'ai quitté mes pères, que je te pleure
et que j'attends.
Je me souviens.
Oh mon Afrique.
Ici, j'attends sur le ciment. La rue de l'école,
je l'évite.
Mes amis ne sont pas dedans. La rue de l'école, c'est un mythe.
On n'aime pas tous les enfants.
Je me souviens de ton odeur, la terre brûlée, coule dans mon sang. Je me souviens de ta couleur. Oh mon Afrique, oh mon Afrique, moi ton enfant.
Oh mon Afrique, moi ton enfant.
Elle est jolie, elle est mignonne, elle est mignonne, elle est jolie. Elle est jolie, elle est mignonne. Elle est jolie, elle est mignonne. Elle est jolie, elle est mignonne.
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et on vient d'écouter Je me souviens, extrait de l'album On m'a vendu du rêve, réalisé par les jeunes de la SMI, association de soutien aux mineurs isolés étrangers, album disponible en téléchargement sur la plateforme Bandcamp à l'adresse asmi.bandcamp. Et on va tout de suite donc retrouver David Roy, responsable de la CIMAD, responsable de la rétention de la CIMAD. Bonjour, bonjour David, David Roy, donc tu es responsable de l'enfermement à la CIMAD et tu nous appelles depuis Toulouse.
C'est ça, oui, à Toulouse confiné comme beaucoup de personnes, effectivement.
Et je crois que les choses se passent plus ou moins bien ou plus ou moins mal, voire très très mal dans les centres de rétention.
Oui, dans les centres de rétention, il y a quand même eu une gestion complètement scandaleuse de la situation en pleine crise sanitaire. En fait, nous, à la CIMAD, on a alerté le ministère de l'Intérieur en leur demandant de fermer les centres de rétention dès le 13 mars.
Ouais.
Et puis, au fur et à mesure que la situation s'est aggravée, que les consignes de confinement et de prévention de la propagation du virus se sont renforcées, on a cessé d'alerter avec beaucoup d'autres organisations, d'ailleurs, pour demander la fermeture des centres de rétention.
Ouais.
Et effectivement, ce qu'on avait craint dès le 13 mars s'est produit, c'est-à-dire que on a des personnes qui sont restées enfermées dans les centres de rétention de façon massive, avec de la promiscuité, évidemment, sans les mesures de protection préconisées autant par l'OMS que par le ministère de la Santé, à savoir les gestes barrières, des dépistages, des confinements possibles en cas de suspicion de coronavirus.
Ouais.
Donc, des personnes enfermées complètement exposé. D'ailleurs, toutes les personnes qui interviennent dans les CRA, que ce soit la police, les associations, le personnel médical, l'OFI, à la fois surexposées au risque d'être contaminées, et puis pour ces personnes, une fois sorties du centre de rétention, potentiellement, qui peuvent participer à la propagation de l'épidémie. Donc, c'est un véritable scandale. D'autant que on avait aussi des personnes enfermées qui étaient elles-mêmes déjà atteintes de pathologies et qui les rendaient encore plus vulnérables au cas où elles auraient contracté le virus. Donc on a ce tableau qui est proprement scandaleux dans les centres de rétention. Alors la situation a évolué très vite en une dizaine de jours. L'autre aspect qui nous poussait aussi à demander la fermeture des centres de rétention, c'est le fait que les expulsions sont quasiment plus possibles nulle part, hein, puisque tous les pays ont fermé leurs frontières. Et au fil de la semaine dernière, ça s'est complètement verrouillé. Donc il y a encore, là, au moment où je vous parle, environ 150 personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention, alors même qu'il n'y a aucune perspective de pouvoir les expulser.
Ouais.
Ce qui est illégal, hein, puisque la rétention ne doit servir qu'à expulser.
Ouais.
Voilà, donc sur cette quinzaine de jours, 10-15 jours, ce qui s'est produit, en fait, c'est que le gouvernement est resté complètement sourd, muet sur la question, malgré les très nombreuses interpellations de la CIMAD, de beaucoup d'associations, d'organisations syndicales, d'avocats, de magistrats, du Conseil national des barreaux, du contrôleur général de lutte privation de liberté, du défenseur des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Enfin bon, énormément d'acteurs qui ont demandé que les centres de rétention cessent leur activité.
Ouais.
Et silence radio, aucune réaction officielle de la part du ministère de l'Intérieur. Et les centres de rétention continuent à être utilisés. Alors beaucoup moins, ceci dit, parce que finalement, ce sont les juges qui ont dû constater que à la fois les personnes été exposée sur un plan sanitaire, et d'autre part que les expulsions n'étaient plus possibles. Et donc, on a eu des libérations en masse de la part des juges des libertés, et de la détention et des cours d'appel partout en France. Pour donner un ordre d'idée, en début de semaine dernière, il y a 8 jours, on était environ encore 900 personnes en rétention, et déjà pas mal avaient été libérées. Là, aujourd'hui, on a 150, donc on a eu des libérations massives, parfois de certaines préfectures, mais essentiellement et massivement de la part des juridictions qui ont constaté l'illégalité du procédé, quoi. Donc voilà aujourd'hui la situation, sachant qu'on a aussi des personnes étrangères dans les zones d'attente ou frontières qui sont dans une situation similaire et même peut-être pire aujourd'hui.
Et pour en revenir au CRA, donc je crois que les choses, enfin d'après les nouvelles que j'ai eues, mais qui sont peut-être un petit peu anciennes, les choses sont très très disparates. Il y a des CRA qui sont quasiment vides, il y a des CRA qui ne se vident pas ou peu. Et avec des situations de violence, de rébellion, de grève de la faim.
En tout cas, aujourd'hui, il y a encore, effectivement, notamment le CRA de Vincennes, il y a un peu plus de 50 personnes enfermées. Au Ménilamlo, c'est le temps descendu aux alentours d'une trentaine pour prendre les gros centres de rétention. Ce sont les deux centres de rétention où il y a encore le plus de monde enfermé. Beaucoup moins que d'habitude, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de personnes exposées. Et effectivement, on a des échos. Là, j'ai changé avec l'équipe de la CIMAT parce que les associations, la plupart, nous sommes retirés des centres de rétention pour des raisons de santé de nos salariés et de respect des pratiques de confinement. Et on aide les personnes à distance, par téléphone, avec les avocats aussi, et les avocates qui sont mobilisées. Et en fait, on a eu écho d'un départ de feu aujourd'hui au centre du Ménilamlo, une tentative d'incendie en tout cas. Alors, on ne l'a pas constaté directement, c'est un écho qu'on a eu par téléphone. Effectivement, j'ai eu des échos d'autres associations et les personnes qui restent enfermées sont évidemment très stressées, très angoissées, ne comprennent pas pourquoi elles restent enfermées alors que tout le monde quasiment a été libéré. Et on a aussi des premiers échos de départ peut-être de grève de la faim. Je dis peut-être parce que les informations sont encore un peu floues là pour moi. Et j'ai eu écho aussi d'une tentative de suicide toute récente dans un centre de rétention. Donc au total, c'est sûr que les personnes qui restent enfermées, en tout cas, nous quand on les a au téléphone, elles vivent ça extrêmement mal. Et il y a déjà des gestes, disons, désespérés ou des actes de révolte pour essayer de se faire entendre. Et je pense qu'on risque fort d'aller vers la multiplication de ces gestes-là parce que les gens sont acculés dans la situation.
Merci beaucoup, David. Peut-être des choses à ajouter.
Je pense qu'il faut vraiment qu'en urgence, le gouvernement décide d'arrêter d'utiliser les centres de rétention, qui libère aussi toutes les personnes qui sont dans les zones d'attente aux aéroports. Il y a également une problématique très importante dans les prisons françaises, qui ne concerne pas que les personnes étrangères, et toutes les prisonnières et les prisonniers, mais les personnes étrangères peuvent être particulièrement vulnérables dans un contexte où les prisons sont très isolées, où les tensions en interne sont extrêmement fortes, et on a vu des émeutes et des situations vraiment, vraiment terribles. Donc je dirais que peut-être aussi qu'il y a des personnes étrangères qui continuent à devoir être assignées à résidence, qui doivent aller pointer au commissariat dans certains lieux, alors même que tout le monde a des ordres de confinement. Donc je dirais que sur toute la chaîne de l'enfermement des personnes étrangères, de leur mise sous contrôle, on voit à quel point c'est une priorité répressive du gouvernement. Et même dans un contexte comme ça, où c'est la vie des êtres humains et la santé publique qui est en jeu, finalement, le gouvernement ne renonce pas. Ou alors, il renonce à demi, puisqu'il utilise moins les centres de rétention, mais il continue à le faire. Par exemple, ce qui nous paraît être complètement scandaleux, et la CIMAD et d'autres organisations, on vient de saisir le Conseil d'État par référé pour demander la fermeture des centres de rétention. Une audience se tiendra le jeudi 26 mars à 11h. On espère que ça pourra aboutir. Si ce n'est pas par ce levier-là, on continuera à réclamer la fermeture de tous ces lieux d'enfermement et de privation de liberté pour les personnes étrangères.
Merci beaucoup, David, d'avoir accepté de répondre à brûle pour point comme ça.
Merci à vous.
Au revoir et puis à très très bientôt.
Au revoir.
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue. www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. On vient d'écouter David Roy, responsable de la rétention à la CIMADE, joint mardi par téléphone depuis Toulouse. Et avant d'écouter Laure Palin, coordinatrice de la TAFE, on va retrouver les jeunes de la SMI avec un nouveau titre, Je pars.
Je suis allé à la recherche d'un sourire. J'ai utilisé les plus grandes précautions. J'ai fait ce qui était nécessaire, mais c'était en vain. J'ai versé les dernières larmes pour bouger ton cœur. J'essayais de réveiller ton émotion dans l'esprit de ta voix entre mes mains. Et c'était en vain. Aujourd'hui j'y vais. Je pars à la recherche des câlins que je t'ai jamais donnés. À la recherche des rêves, des moments magiques qu'on n'a jamais vécu. Je pars avec le cœur brisé, l'âme déchirée, la pensée piégée en toi et l'esprit voulant plus en plus de toi. Je pars. Sans but, sans destination, sans direction pour mon cœur. Même si je n'ai jamais eu, mais je m'en veux. Je pars, conscient que j'ai perdu ce que je n'ai jamais conquu. Je pars, sachant que je l'aime, mais qu'elle veut rien de moi. J'irai penser aux larmes qu'un jour mon cœur a versées pour toi, ma belle. C'est pour cela, moi je pars.
À l'écoute du RESF, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et tout de suite, on va écouter Laure Palin, coordinatrice de l'ANAFE, qui parle des zones d'attente et autres lieux d'enfermement des étrangers, et en particulier de celle de Roissy, où, comme dans les centres de rétention administrative, les mesures de confinement ne semblent pas s'appliquer ni pour les étrangers non admis, ni pour les personnels, au risque de contribuer à répandre ou à accélérer l'épidémie, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Bonjour Laure Palin de l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers.
Bonjour Yves.
On t'entend régulièrement dans cette émission, en général en direct et pas par téléphone, mais là aujourd'hui, confinement oblige, ce sera par téléphone.
Oui, c'est ça.
Et donc cette situation qu'on connaît depuis une dizaine de jours n'est pas sans conséquence sur notamment les zones d'attente.
Oui, exactement. En fait, on aurait pu penser que la privation de liberté dans les zones d'attente et les refoulements allaient cesser. C'est d'ailleurs ce que la plupart des personnes nous disent, sous prétexte qu'il n'y aurait plus de liaisons aériennes. Mais à l'heure actuelle, il y a encore des liaisons aériennes qui perdurent. Et donc, des personnes qui se voient refuser l'entrée sur le territoire et certaines qui sont placées en zone d'attente.
Ouais.
Concrètement, comment ça se passe dans les zones d'attente à l'heure actuelle ? En fait, il y a un double risque en fait de contamination. Il y a le risque qu'une personne qui arrive sur le territoire soit porteuse du virus,
ouais,
qu'elle fasse l'objet d'un refus d'entrée, qu'elle soit placée en zone d'attente, et du coup les personnes soient qui sont maintenues avec elle, mais aussi le personnel qui travaille, soit contaminées. Mais la manière la plus probable, ou en tout cas le risque le plus grand, est que la contamination vienne du personnel qui est à l'extérieur et qui vient travailler dans les zones d'attente. En termes de protection, en fait, il n'y a pas vraiment de mesures satisfaisantes qui ont été mises en place d'un point de vue sanitaire depuis le début du confinement et même avant. que ce soit pour protéger les personnes qui y sont enfermées ou pour protéger les personnes qui travaillent dans ces lieux. En fait, concrètement, il est très difficile de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale du fait de l'exiguïté des lieux, du fait qu'il n'y ait pas de possibilité d'ouvrir les fenêtres. Il n'y a pas de possibilité d'aller de sortir, de prendre l'air dans toutes les zones d'attente. C'est le cas pour Roissy, mais c'est pas le cas pour toutes les zones d'attente.
Mmh.
Et d'un point de vue médical, à Roissy, il y a un service médical qui est présent tous les jours, donc qui est amené à rencontrer les personnes qui sont maintenues, mais c'est pas le cas pour les autres zones d'attente. À cela s'ajoute le fait que les personnes qui sont enfermées ne sont pas toujours informés en fait des risques qui sont liés à la contamination par le Covid-19, mais aussi des mesures qui sont mises en place par le gouvernement, ainsi que de l'évolution de la situation au niveau mondial et national. Ce qu'on a pu constater dans le cadre de nos permanences qui se sont aménagées du fait de notre non-présence sur les lieux là depuis une dizaine de jours, c'est qu'il y a quand même un manque de matériel nécessaire à la fois pour les personnes maintenues et à la fois pour le personnel qui intervient dans ces zones-là. Globalement, il y a des gants et des masques qui sont mis à disposition du personnel de police, ce qui n'est pas toujours le cas pour les personnes maintenues et pour les autres personnels présents. Il y a du savon et du gel hydroalcoolique, mais c'est pareil, il y en a dans la zone d'attente de Roissy, qui est la plus grosse, mais il n'y en a pas toujours dans les autres zones d'attente. Pour peut-être donner un peu plus de précision, les personnes, en fait, il y a au-delà des risques de contamination, il y a la question des refoulements qui se poursuivent. C'est ce dont je parlais un petit peu au début de mon propos. Et ces refoulements, ils sont en totale violation des prescriptions de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise en fait de limiter les risques d'exportation ou d'importation de la maladie. Ce qui veut dire, parce qu'en fait, on a constaté qu'il y avait des personnes qui, lorsqu'elles arrivent à l'aéroport, se font refuser l'entrée et se font refouler directement au moment de l'arrivée, ce qu'on appelle des refoulements à chaud. Et donc déjà, là se pose la question de la question sanitaire, mais aussi se pose la question qui est du coup un petit peu mise de côté ces derniers jours par les autorités et par les juges, à savoir la question du respect du droit d'asile et du principe de non-refoulement. Parce que ces personnes pourraient être des potentiels demandeurs d'asile. Pour les personnes qui ne peuvent pas être remises dans l'avion directement, elles vont être maintenues en zone d'attente et il peut y avoir des refoulements. Il y en a eu en fin de semaine dernière depuis Orly, Toulouse, Marseille notamment. Pour les personnes qui sont maintenues, soit pendant... Normalement, la loi prévoit que pendant les 4 premiers jours, en fait, la personne, elle est sous autorité de la police. Et au bout de 4 jours, si elle est toujours maintenue, elle va être présentée devant le juge des libertés et de la détention. Le problème ou la question, enfin le problème qui se présente depuis le milieu de la semaine dernière, c'est que le tribunal de grande instance de Bobigny a suspendu toutes les audiences du juge des libertés et de la détention qui statuent sur la prolongation du maintien en zone d'attente en considérant qu'il ne s'agit pas que ça ne rentrait pas dans le cadre du plan de continuité. Et donc, du coup, depuis le 18 mars, il n'y a plus d'audience devant le juge des libertés et de la détention de Bobigny. Et donc, les personnes qui sont maintenues en zone d'attente, qui ne vont pas être refoulées parce qu'il y a de moins en moins de liaisons aériennes, au bout de 4 jours, vont être libérés. Donc, en fait, ça pose vraiment la question de l'enfermement à tout prix et de l'enfermement encore plus inutile parce qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement. Mais par contre, on les enferme. Donc, on les enferme dans un lieu qui est confiné et s'il y a une contamination à l'intérieur, il y a un risque que beaucoup de personnes soient contaminées en même temps. Et au bout de 4 jours, elles vont être libérées sur le territoire. À noter que du coup, nous, on s'est interrogé sur cette pratique et du coup, comme il n'y avait plus de juge des libertés et de la détention pour les personnes maintenues à Roissy, qui représentent la majeure partie des personnes maintenues et aujourd'hui même la totalité des personnes maintenues, on a saisi le juge administratif sous la forme des référés, donc des référés liberté pour demander en fait la libération de ces personnes qui sont enfermés, encore une fois, sans perspective d'éloignement et en même temps pour une durée qui du coup, enfin, sans absolument aucun objet. Parce qu'il faut le rappeler, c'est que on peut être maintenu en zone d'attente le temps strictement nécessaire à l'organisation du départ ou en cas de demande d'asile. Mais en fait, si on n'est pas demandeur d'asile et s'il n'y a pas de perspective d'éloignement, on peut pas être enfermé en zone d'attente. Et en fait, les décisions du tribunal administratif de Montreuil sont pas du tout positive, parce que du coup, le tribunal, pour l'instant, a considéré que, en substance, le fait que les personnes soient maintenues n'était pas, pendant 4 jours, c'était pas très grave, hein. Je mets des petits guillemets, hein, mais voilà, c'était pas si grave, en fait, pour le juge administratif. Donc, ce qui pose un petit peu question sur le rôle du juge administratif, en tant que soi-disant gardien des libertés, lui également. Et en fait, malgré tout ça, malgré toutes les problématiques que je viens d'évoquer sur les conditions de maintien, les risques de refoulement, les risques de contamination d'autres pays et l'enfermement sans aucun objet, les placements en zone d'attente continuent. C'est-à-dire, pour donner un petit exemple, le 18 mars, on comptait 38 personnes dans la zone d'attente de Roissy. Et le lendemain, donc le 19 mars, il y en avait 47, sachant que 4 avaient été libérés.
Ouais.
Aujourd'hui, on a depuis le 19, les chiffres, le nombre de personnes maintenues ont beaucoup baissé. Aujourd'hui, on est à 16 personnes maintenues à Roissy et il n'y a plus personne dans les autres zones d'attente.
Ouais.
Mais la question, elle se pose quand même, parce qu'elle met en danger à la fois les personnes qui arrivent en zone d'attente, mais aussi le personnel qui doit y s'y rendre tous les jours.
Ouais.
Et du coup, ce que nous, on demande à l'ANAFE, on demande du coup, bien évidemment, qu'il soit procédé à la libération immédiate de toutes les personnes maintenues,
ouais,
que les refoulements soient suspendus, ouais, pour éviter justement la propagation du virus dans d'autres pays, de suspendre les placements en zone d'attente,
ouais,
pendant tout le temps du confinement, et d'assurer la prise en charge sanitaire éventuellement des personnes qui se présenteraient aux frontières avec des symptômes. Globalement, ce qu'on demande, sont exactement les mêmes choses qui ont été demandées par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, le défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans leur tribune qui a été diffusée ce week-end, où justement ils demandaient la fermeture des zones d'attente à minima pendant toute la durée du confinement.
Donc, c'est des choses qui sont à suivre quand même de très près.
Oui, ça demande beaucoup de suivi et c'est important d'assurer un suivi parce que du coup, il y a de réels risques, mais qui vont au-delà des questions pour les personnes qui sont enfermées. Il y a des risques aussi pour des risques sanitaires plus globaux, en fait.
On met tout le monde en danger et on risque d'exporter considérablement, de contribuer à la diffusion de l'épidémie internationalement.
Tout à fait.
Bien, merci beaucoup, Laure. Peut-être que tu as des choses à ajouter.
On continuera notre activité, notre travail de suivi et sur cette situation et on essaiera d'apporter conseils aux personnes qui sont maintenues pendant tout ce temps-là en espérant que nos recommandations et nos demandes soient entendues et qu'on arrête de faire prévaloir les impératifs de lutte contre l'immigration plutôt que de faire prévaloir les questions sanitaires au niveau mondial.
Eh ben merci beaucoup Laure, et puis peut-être on peut se donner, selon l'actualité, rendez-vous pour la semaine prochaine. Il va sûrement y avoir des nouvelles choses à annoncer la semaine prochaine.
Ben, s'il y a des nouvelles choses, oui, je t'en ferai part, bien évidemment.
Ok, eh bien merci beaucoup, et puis donc à la semaine prochaine peut-être, et puis tu peux rester à l'écoute de FPP 106.3 pendant que tu télétravailles et que tu confines...
C'est ça, oui, exactement.
Voilà.
Merci beaucoup à toi.
Eh bien, merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue. ou http://www.rfpb.net pour nous écouter partout dans le monde. On vient d'écouter Laure Palin, coordinatrice de l'ALAFE, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Et tous les titres que l'on a écoutés dans cette émission sont extraits de l'album « On m'a vendu du rêve » produit par les jeunes de la SMI, disponible en téléchargement sur la plateforme Bandcamp à l'adresse http://asmi.bandcamp.com et vendu au profit de la SMI, Association de soutien aux mineurs isolés étrangers. Et comme tous les rendez-vous de la semaine ont été annulés, pas d'agenda cette semaine. On va donc se quitter sur la vie avant de recoudre les oreilles loin du front. Et cette émission sera rediffusée lundi matin de 7h30 à 8h30 et très bientôt téléchargeable sur le site resf.info à la rubrique radio. Et restez donc à l'écoute de FPP. C'est le meilleur moyen de passer son confinement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission RESF. Au revoir.
La vie est une opportunité, profitez-en. La vie est un jeu, jouez. La vie est une chanson, chantez. La vie est trop précieuse, ne la détruis pas s'il te plaît. La vie est une tragédie, affrontez-la. La vie est un défi, répondez-y. La vie est une beauté, admirez-la. La vie est tout, y arriver. La vie est la vie. Se battre pour cela. La vie est la vie. Se battre pour cela. La vie est un rêve, réalisez-le. La vie est une promesse, accomplissez-la. La vie est une peine, surmontez-la. La vie est un devoir, complétez-la. La vie est une aventure, osez. La vie est un combat, acceptez-le. La vie est la vie. Se battre pour cela. La vie est la vie. Se battre pour cela.
OQTF, obligation à quitter le territoire français.
Attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3.